bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la mode originale. Excellente année à tous.
Oui, bonne année.
Une bande originale toujours sans Nagui. Décidément, elle commence bien cette année. Une bande originale sans Nagui, mais avec Frédéric Siglis.
Bonjour.
Marina Rollman.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastureau pour Maltraiter l'info. Et bien sûr, la ballerine de la bande originale, Leïla Kadour Boudadi.
Bonjour à tous, très belle année. Notre invité pour commencer l'année en beauté, il s'agit de Marie-Agnès Ginon.
Non. Bravo.
Bonjour Marie-Agnès, merci d'être à ce micro. On commence l'année en beauté avec vous. Comment allez-vous ?
Bien, et vous ?
Oui, bien. Vous avez passé un bon réveillon ?
Oui, ça se passe bien.
Et mangez quoi ?
Comme tout le monde, du foie gras, du saumon,
des toasts.
C'est la première fois que vous venez dans la bande originale et on se réjouit d'avance. Vous venez pour nous présenter Podane. Podane, cette comédie musicale, c'est un double événement puisque c'est le retour de Podane après tellement d'années. On est assez fans autour de la table. Et puis ça marque aussi la réouverture du théâtre Marigny. Donc deux beaux événements en même temps. Après 5 ans de travaux, le théâtre renaît et renaît de la plus belle des manières avec cette comédie musicale. On connaît tous le film de Jacques Demy, la musique de Michel Legrand.
Ouais, c'était chiant.
Voilà. On commence déjà pas mal. Adapté d'un conte de Charles Perrault, on en parlera tout à l'heure avec notre spécialiste. Et vous, Marie-Agnès, vous êtes pour moi la révélation de ce spectacle. J'ai eu la chance de venir vous applaudir. Ça joue encore jusqu'au 17 février, donc vous avez encore le temps d'aller voir Marie-Agnès sur scène. Vous incarnez la mère du prince et de la plus belle des manières avec la grâce qu'on vous
connaît. Elle ne parle que de vous quand elle est revenue. Les autres étaient presque médiocres.
Pourtant, je joue un peu une reine cruche.
Oui, mais vous jouez de la plus belle des manières.
Ah, voilà un compliment.
Mais non, parce que
c'est la classe de la danseuse étoile qui est restée.
Mais c'est exactement ça. On voit Marie-Agnès débarquer sur scène à l'acte 2, on va le dire comme
ça. Oui, c'est l'acte 2. Ouais.
Et tout de suite, il y a un élan de grâce, de beauté. Tout le monde s'arrête et voit Marie-Agnès. Marie-Agnès, racontez-nous comment vous êtes arrivée dans cette aventure.
C'était juste une proposition de Jean-Luc Choplin et de Thierry Messonnier qui m'ont interpellée pour interpréter ce rôle. Alors je ne savais vraiment pas ce qui allait m'arriver, mais j'ai dit oui comme toujours d'office.
C'est vrai.
Parce que je dis toujours des oui, puis après je suis emmerdée quoi.
Faut faire attention parce que ma femme a terminé avec deux enfants.
C'est à peu près ça ce qui m'arrive dans la vie.
On vous retrouve sur les planches. Vous avez fait vos adieux à la scène en tant que danseuse étoile il y a quelques mois. Là, c'est quoi? C'est une nouvelle vie. Vous êtes la novice finalement sur ces planches-là de théâtre, en tout cas.
Oui, je pense avec d'autres. Je pense que aussi Mathieu, c'est la première fois. Mathieu Spinozzi, je pense que c'est la première fois qu'il chante aussi.
Claire Chazal qui fait
la narratrice. On a tous des rôles. On s'est tous lancés dans le bain. Et c'est assez amusant parce qu'on est tous hétéroclites. On a tous des talents incroyables et on fait autre chose. Et cette bande de troubadours marche vraiment très bien en fait.
C'est un plaisir de vous voir tous réunis sur scène. Alors la tradition ne va pas échapper à ce 1er janvier.
Ça continue en 2019 ?
Oui, absolument. On passe à l'interro, Marie-Agnès. Ouais, je vous explique le principe. On va poser des questions vous concernant et on va voir si la bande autour de la table a bien bossé. Donc vous ne répondez pas, Marie-Agnès.
D'accord.
C'est parti. Qu'a fait Marie-Agnès pour la première fois à 33 ans ?
Passer le permis de conduire ?
Non.
Glace.
Non plus.
Elle a bu de l'eau.
Non plus, mais c'est pas loin.
Elle a bu de l'alcool.
Mais non.
À 33 ans.
Avez bu votre premier verre d'alcool et aussi votre premier café.
Exactement.
Expliquez-nous, Marie-Agnès.
C'était très bizarre. Déjà, j'ai pas un goût pour l'alcool. Je me suis rattrapée. j'avais vraiment pas ça en moi, en fait. Et tout le monde me traitait de tare parce que je pouvais pas de verre de vin à table et tout ça. Mais c'était juste que, en fait, moi, musculairement, comme j'étais dans un goal tellement précis, je voulais vraiment arriver au top. Tous ces genres de choses, ces substances me faisaient du mal au corps. Donc, je les ai.
Vous le ressentiez?
Ouais, très très bien. Je les ai annihilées parce que j'en voulais pas, quoi.
Alors même... que moi, je sais danser que quand j'ai bu.
Voilà, chacun sa merde, on dit.
Et même, alors, l'alcool,
les rôles sont distribués.
L'alcool, bon, a priori, on peut imaginer, mais le café...
Bah, le café, c'est un excitant aussi, c'est pareil. C'est quelque chose qui ne vous rend pas naturel, en fait.
D'accord.
Et pour les pointes, et quand on tient sur une petite cuillère à café, comme j'ai passé la plupart de ma vie sur une petite cuillère à café, c'est-à-dire que sur mes pointes, on peut pas avoir de choses comme ça, des substances qui nous offensent. Parce que sinon, on n'est pas la majeure partie consciente de son corps.
D'accord. Donc ça veut dire que maintenant que vous n'êtes plus étoile, en tout cas vous êtes retiré.
C'est la dérive. Hein.
Allez l'alcool.
C'est la dérive
avec
totale.
Modération. Je le répète avec modération.
Ah oui,
on a encore les vapeurs d'hier soir. Voilà, c'est ça. Mais le reste aussi alimentairement parlant, vous êtes plus détendu là-dessus aussi ou pas?
Alors moi j'ai jamais eu de problème de forme.
Ouais.
C'est-à-dire j'ai un très très bon métabolisme, donc j'ai toujours mangé à ma faim.
Ouais.
Mais je sais que toutes mes collègues se sont privées. Par contre.
D'accord. Voilà. Donc là, vous êtes une chanceuse de ce point de vue-là.
Ouais, je suis très chanceuse. Merci, maman.
On poursuit. Que fait Marie-Agnès tous les matins?
Prends une douche.
Ouais, je savais que vous alliez dire des trucs.
tu crois qu'on va sortir des trucs intelligents? Ça fait combien de temps que tu bosses?
Non, mais après, je réalise la bande que j'ai autour de moi. Heureusement que Marina est là aujourd'hui.
Oui, là, je suis très sage, trop sage peut-être.
Mais qu'est-ce que vous êtes encore vous faites tous les matins?
Non, moi, je sais pas, je suis. Pas d'alcool comme Marie-Agnès.
C'est café calva maintenant.
Ouais, c'est ça.
Des assouplissements, des étirements, des choses.
Ouais, en plus précis, plus précis.
De la barre à terre.
De la méditation?
Non plus.
Du stretching,
du repassage.
Un grand écart, un grand écart par jour.
Oh là. Ah oui, il y a un petit espace là, je peux vous le faire si vous voulez.
C'est vrai, tous les matins.
Ouais, c'est la position que je préfère pour m'étirer en fait, pour me réveiller.
Et moi aussi. je vais vous dire un truc. Moi aussi, dès que j'ai le temps.
Je rappelle qu'on fait de la radio filmée. Démonstration.
Là, c'est ce qui me détend. Je vous comprends totalement. On est en phase.
Je suis contente.
Ouais, moi aussi, je suis ravi. Je peux partager quelque chose avec quelqu'un.
Il s'échauffe pas en plus. C'est
complètement
dingue.
Ah non, à sec, bim, crac. Et crac, ouais.
Oh mon dieu!
Ah oui, Leïla, c'est comme
c'est
ça.
C'est assez beau à voir d'ailleurs.
Ouais, j'aimerais bien une photo ou quelque chose comme ça.
Je veux bien voir la tête du grand écart, moi.
Il y a des radios à l'hôpital, si vous voulez.
Alors, le grand écart, c'est voilà, dans la danse, c'est quand même une des pratiques. On est assez admiratif quand on voit un grand écart. Ça tient à quoi? Au travail, à la physiologie, à comment on peut y parvenir si on est un individu lambda comme Daniel?
Pour nous, c'est juste une position d'étirement.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Donc c'est simple.
C'est juste, ça. C'est juste ça.
Mais pour y parvenir, c'est
alors pour les
boulot,
autres,
au début.
Ça paraît une figure improbable.
Ouais.
Pour nous, c'est juste un étirement.
C'est comme ça.
Ouais,
tu fais,
c'est comme là. Ça. Voilà.
Il y en a pour qui c'est galère.
Voilà.
C'est
sûr qu'il y en a pour
qui c'est galère. Surtout pour les garçons, je dirais.
Il y a des garçons qui en bavent, je peux vous dire.
Et c'est important de continuer à faire travailler votre corps tous les matins. Vous êtes à la barre tous les matins.
Mais en fait, l'étirement et la souplesse, c'est la plus grande qualité en fait dans le corps, je pense. La force, on peut toujours la reconquérir, mais l'assouplissement et l'étirement et la souplesse du corps, c'est que le corps soit malléable, c'est la plus belle chose en fait. Donc, il ne faut pas le perdre.
D'accord. Une dernière petite question d'interro. Ouais. Laquelle vais-je choisir?
Celle-là.
Marie-Agnès a réussi à danser alors qu'elle avait complété ses paroles.
Cassé ses deux pieds.
Bah, on n'est pas loin.
Non. Elle avait une entorse.
Un claquage.
Non, pire qu'une entorse.
Un claquage?
Une jambe cassée.
Une fêlure.
Une prothèse.
Une fracture. C'est ça, Marie-Agnès?
Une fracture du tibia, ouais.
Et vous avez dansé sur une fracture du tibia?
Ouais.
De 12 cm.
Ouais.
Alors qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
C'est une danseuse étoile qui m'a dit arrête tes conneries là, il faut juste que tu ailles à l'hôpital parce que en fait je boitais en coulisses et dès que je passais sur scène c'est la transcendance et je sautais comme un capri. Sauf j'avais juste une patte folle quoi.
Ouais.
Donc
c'est quoi? C'est le corps tout d'un coup qui génère
c'est
des
juste
hormones.
J'avais pas envie de lâcher
que...
ma place, je crois. J'avais envie de. C'est tellement dur la hiérarchie dans l'opéra. Si on rate un niveau et si on rate un spectacle, on peut être jugé.
Non mais j'entends, mais là, une fracture, vous pouviez carrément bousiller votre carrière.
Je pense pas, non.
Non ?
Non, fibre mentale, non, je pense pas.
Oui, c'est dans la tête. C'est vraiment dans la tête.
Bon, voilà, c'est sur la jambe.
La prochaine fois que mon gosse se casse quelque chose, je vais dire, c'est dans la tête. Rêve-toi.
On va chercher le coin.
Croyez-moi.
Non, mais je suis assez admirative parce que on comprend quand on parcourt quelques articles vous concernant, Marie-Agnès Gillot, que non seulement vous avez une pratique incroyable depuis très très longtemps, une hygiène de vie irréprochable, mais aussi que la dimension mentale, elle est essentielle. Et je trouve que ça fait de vous une danseuse étoile. Ça fait de vous une danseuse étoile particulière, Marie-Agnès Gillot. Oh, elle est partie, ça y est, on l'a perdue.
Oh, c'est le 1er janvier.
Je suis sûre que le matin, comme ça, tout de suite, elle picole. Et vous donc?
Ça arrive à 33 ans, elle a rattrapé en retard.
Vous vous êtes beaucoup blessée, Marie-Agnès, pendant votre carrière?
Non, très peu. Enfin, j'ai toujours eu des petits, comme on dit, des petits pets.
Ouais.
Mais je faisais en sorte que ça passe très vite. Même les opérations. Par exemple, le chirurgien, il me dit, ouais, les ménisques, c'est 3 semaines. Je lui dis, ah non, je vous donne 5 jours. Donc, le lendemain, j'étais en piscine.
Ah, donc vous avez été opérée déjà?
Des deux genoux, ouais, et des deux genoux. Et le premier ménisque, c'était 3 semaines. Le deuxième ménisque, c'était 5 jours. J'étais en scène 5 jours plus tard avec les points de suture en scène. Et ça, ça range pas. Y a pas de souci, en fait. Mais c'est juste que je ne pouvais pas perdre mon temps. Ouais. Je n'ai pas de temps à perdre quand une carrière, c'est une horloge qui tourne et qu'on a très peu de temps pour être, j'ai pas fait un métier qui me donnait du temps. J'ai fait un métier que le temps m'était censé, quoi. Donc, je ne pouvais pas perdre de temps.
Et quand les choses ralentissent, quand on n'est plus tenu à la même obligation de cette compétition, sur scène, est-ce qu'à un moment le corps il vous fait pas signe pour toutes ces années où l'avez
il n'y a pas de relâchement et qu'est-ce qu'on fait là, on s'entraîne pas là?
Il y a un manque,
il y a un gros manque là, il faut que j'aille faire du vélo je crois.
C'est vrai. Vous avez vraiment besoin de vous défouler?
Ouais, j'ai besoin de me défouler, ouais.
Et alors, bon, mais sur scène, est-ce que vous vous défoulez suffisamment au théâtre Marigny dans Pau?
Ah, j'ai juste un kick double tour, donc...
Ouais. Mais c'est un des éléments comiques, en fait, je trouve, du spectacle.
Ouais.
Revenons à Pau d'Âne, au théâtre Marigny, qui jouera jusqu'au 17 février. Un très, très beau spectacle, il y a 100 représentations au total, en fait. Ouais. Et vous enchantez vraiment le public, que ce soit des enfants avec leurs parents, des personnes plus âgées. Enfin, la salle, elle est magnifique de ce point de vue-là. C'est tous les publics qui sont là. Vous avez des retours à la sortie de la salle.
Oui, je fais même des petits coucous aux enfants, quoi. Ouais. Ils sont debout dans la salle, ils me font coucou, bonjour. Alors ça, à l'opéra, j'avais pas le droit. Ouais. Ça, ça m'était interdit.
Mais là, vous êtes sûr que vous avez le droit, là, pour...
Ah oui, j'ai le droit, au revoir aux enfants.
Alors, reparlons plus généralement de Pau d'Âne. Racontez-nous un petit peu l'histoire, Marie-Agnès Gillot, pour ceux qui n'auraient pas encore vu Pau d'Âne, pour les enfants qui nous écoutent, là, en ce 1er janvier, qui pourraient découvrir une très belle histoire qui pourrait durer toute leur vie, je crois.
Bah, c'est un conte de fées, comme d'habitude, mais sauf que c'est un peu incestueux, cette histoire. Hein. Alors, c'est un père qui veut épouser sa fille.
Ça se passe dans le Nord?
Ouais, je pense.
Ah, si on commençait cette année par une avalanche de neige.
Non. La reine décède et le roi se met en tête, après avoir fait une promesse à la reine, d'épouser
la femme aussi belle qu'elle.
Voilà, il n'y a pas 20 000 femmes dans le royaume aussi belles que cette reine défunte, c'est... La fille.
Et donc, la fée s'en mêle. Donc, je pense que c'était la maîtresse.
Oui, vous avez raison.
Qui n'a pas été mariée.
C'était un peu dégoûté.
Dit à la princesse qu'il va falloir qu'elle se carapate. Parce que ça se fait pas.
On n'épouse pas ses parents. Alors, on n'a pas encore.
On n'épouse pas ses parents.
Alors, justement, on n'épouse pas ses parents. C'est les conseils de la fée, la marraine, la fée, qui est fantastique dans la pièce également.
Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et des législatures décidées avant le temps, qu'on ne marie pas les filles avec leur papa.
Et là, on entend la voix d'Emma Kate Nelson, parce que le choix de la distribution, qui peut sembler comme ça, a priori, était étonnant, mais qui est réussi, c'est de choisir une comédienne qui a cet accent britannique, qui lui donne une certaine classe, avec ce mélange d'époque où on voit la fée surgir sur des patins à roulettes et traverser la scène. Il y avait déjà ça dans le film de Demi, ce mélange de différentes époques. Donc, on continue l'histoire, on n'épouse pas ses parents, Marie-Agnès Gillot.
On n'épouse pas ses parents.
C'est bien de le rappeler, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça se perd.
Ouais. C'est des règles de base.
De plus en plus d'unions, comme très gênante.
Tu ne tueras point et tu n'épouseras pas ton père.
Je trouve ça très bourgeois, très conservateur.
Oui, alors ça, c'est les familles de Daniel.
Dommage pour moi.
Et on a cette Podane qui est face à ce dilemme parce qu'elle est dans l'affection de son père et en même temps, elle a bien conscience que c'est une union contre nature, donc elle va commencer à demander tout un tas de choses improbables.
Des caprices, une robe couleur de beau temps, de lune, et puis la peau de l'âne qui fait des pièces d'or, normalement. Ouais,
c'est ça, qui assure la richesse de ce roi et de ce royaume. Et elle va aller jusqu'à demander cette fameuse peau d'âne. On en parlera tout à l'heure avec notre spécialiste pour voir si cette peau a toujours été synonyme d'argent. Alors, il y a d'autres chansons qui viennent nous enchanter dans cette comédie musicale. Quel est votre préféré à vous, Marine Gillot?
Le cake d'amour.
Le cake d'amour, la recette.
Bien sûr.
Mais tout le monde parle du cake d'amour.
Mais oui.
Faites-en un.
Ouais. Oui, moi, je vais essayer.
Préparez votre pâte dans une jatte, plate, et sans plus de discours, allumez votre autour d'un puits creusé.
Et là, c'est la voix de Marie Aubert qui incarne cette peau d'âne sur scène qui est merveilleuse, qui avait déjà repris un rôle de Catherine Deneuve dans Les Parapluies de Cherbourg. C'était au Théâtre de la Ville il y a quelques temps. Elle est absolument mais fascinante.
C'est un petit bijou, cette femme.
Ouais.
Cette jeune femme est un petit bijou. Je vous le conseille.
Marina, toi aussi, tu aimes peau d'âne.
Traumatisme absolu de peau d'âne. J'ai grandi avec peau d'âne. Et alors, manifestement, la recette du cake d'amour, il y a des problèmes de proportion.
Oui, on est plusieurs à avoir
tenté. C'est bien pour les rimes, mais c'est pas bien pour la cuisine. Mais il faut le réadapter. Mais c'est un 4 quarts, en fait. C'est une espèce de cake.
Sébastien Godard l'a adapté.
Ouais. Oui, c'est
le
vrai.
Le grand pâtissier.
Ah,
voilà. Un cake d'amour.
Ah, voilà.
Vous pouvez l'acheter, en fait. Il faut changer un peu les proportions.
Avec
d'essayer de le faire.
Ouais, c'est ça. Avec les bonnes proportions. Et toi, Marina, ça évoque quoi pour toi, les peaux d'âne?
Mais moi, c'était surtout le film et la magie de ces décors. Enfin, c'est quand même incroyable de se dire qu'on peut faire un film avec des comédiens qui soient beaucoup plus fous que tout ce qu'on pourrait voir en dessin animé. C'est-à-dire à l'époque, avec Jean-Marie, les chevaux bleus, les chevaux rouges, puis l'hélicoptère. Mais c'est ça qui est incroyable. Voilà, c'est ça. C'est toutes ces espèces d'anachronismes. Et puis en même temps, un truc très féerique. Et c'est cette époque où on fait des comédies musicales de grande échelle où on peut créer des décors en studio qui sont plus fous que tout ce que l'imaginaire.
Ça vaut pas Transformers quand même.
Ouais, c'est vrai.
On n'en est pas loin.
L'émotion.
Alors justement, Fred, puisque tu la ramènes, qu'est-ce que t'en penses, toi, de peau d'âne? Les garçons, vous en pensez quoi? Parce que est-ce que c'est juste une sorte de plaisir de fille?
En fait, non, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, on me l'a présenté comme vraiment un film culte. Je pense qu'il y a un problème culturel. C'est-à-dire que. Non, mais c'est vrai, moi, je suis vraiment un garçon du bitume, tu vois, de la culture. Et c'est vrai que quand j'entends les premières chansons de peau d'âne, je peux avoir des convulsions sur le sol.
C'est vrai, c'est pas ton truc.
Ça, c'est trop gentil. Mais ça me fait la même chose dans certaines chansons de Disney aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est too much pour moi.
Là, la musique de Michel Legrand ne te parle pas du tout.
Alors, par contre, en spectacle, avec la prouesse, les comédiens, en live, là, c'est différent. Mais en film, je me parle et je me dis, mais pourquoi tu t'infliges ça?
Un peu plus modéré, je pense, ouais.
Ah non, moi je suis pas plus modéré. C'est pas du tout gentil, c'est poétique, ça n'a rien à voir, c'est pas de la mièvrerie, de la gentillesse.
Voilà,
les relations entre ce père et cette fille, Jean-Marie, il est pas gentil dans le film, il fait peur même. Au contraire,
tu peux être sur le bitume.
Ah, alors, très bien, j'ai compris, je suis en minorité. Très bien.
Moi ça m'a toujours enchanté depuis que je suis petit, et encore aujourd'hui, encore plus. Et ma fille qui a 24 ans aujourd'hui, elle adore ces chansons, elle les chante, et c'est devenu intemporel.
Ouais.
Peau d'âne, et puis les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort.
Ouais, c'est un plaisir qu'on se fait au moins une fois par an. C'est pour ça que annoncer le retour de peau d'âne sur scène, c'était une première pour moi. J'avais 10 ans tellement j'étais heureuse. Et puis quand j'entends amour
se porte autour du cou, le cœur est fou. Quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine, comme un foulard de blanche laine, l'amour s'enroule et puis se noue. Amour, amour, m'a rendu fou.
Je peux vous dire dire qu'on l'a entendu dans les couloirs de la radio ce matin. Ouais. Tout le monde était en train de chanter ça. Même Albert Algoué, je peux vous dire que c'était pas ce qu'il y a de plus
agréable. Nicolas Demorand aussi, on l'a vu.
Nicolas, non, il dansait.
Il dansait dessus.
Il dansait.
C'est mieux.
Il a ce côté petit rat de l'opéra, Nicolas Demorand. Et Maréchal Ganache.
Changement d'ambiance.
Oui, changement d'ambiance. Est-ce que vous savez pourquoi Podane va être un énorme succès?
Ah, mon cher Morin, tout d'abord, tous mes voeux. Même si je crains que cette année soit pour vous la dernière.
Ah, merci.
Puisque j'entends. Quant à Podane, l'âme de Podane. Mesdames, vous me posez. Vous n'auriez pas une telle question si vous n'étiez pas convaincu de l'immense talent de Gillo Marie-Agnès. Sans elle, dans le rôle de la reine du Royaume Rouge, cette peau d'âne, elle vaudrait Pozzobi. Que dalle, Macache Bonneau.
Attendez, je n'en ai jamais douté, Marie-Agnès.
Vous savez, Morin, bien que je ne crapaille plus, hélas, sur les champs de bataille, les 7 étoiles de mon képi.
Sept étoiles.
Mais tenez-vous au courant. Mais la 8e, ça sera là-haut. Les 7 étoiles de mon képi de maréchal continuent de briller. Eh bien, Gillo Marie-Agnès, c'est kiff-kiff. L'étoile qui illumina de façon si novatrice tant de ballets, à l'opéra et sur tant d'autres scènes, continue aujourd'hui de briller avec intensité sur les planches du théâtre Marigny. C'est beau ce que je viens de dire.
Oui.
Mais c'est pas tout.
Qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous sens inhabituellement ému, maréchal.
Oui, moi, il y a des coïncidences étranges que vous ne pourriez pas comprendre.
Vous savez, je peux essayer, maréchal. Allez-y.
C'était à Saïgon.
Ah, Saïgon.
Le 1er janvier 1954.
Belle année.
Évadé, évadé du Bagan-Viet de Gang Bang Phoc.
Vous voulez recommencer mon dentier
qui se détache, où j'avais croupé dans une cage en bambou.
C'est pas possible.
Je venais avec mes légionnaires chercher l'oubli dans une maison de plaisir réputée du quartier chinois. La reine du Royaume Rouge. Où l'atelière, Madame Suzy Wan, me consolait avec ses pipes à opium. Et c'est là. Oui, c'est là, Morin.
Et poursuivez, maréchal, vous laissez pas submerger par l'émotion, allez-y.
C'était un 1er janvier,
oui.
Il y a 64 ans exactement.
Tout juste.
Les 12 coups de minuit venaient d'être frappés sur un gong par Suzy Wan, comparut Podane. Oui, Podane, c'était le nom de scène d'Edmond, ma future épouse, qui se produisait dans ce bouge en tant que femme à barbe, dans un numéro d'effeuillage qui me rendit fou de désir. Amour, m'a rendu fou. Malgré sa pilosité jusque dans le dos, d'où son nom de scène, je tomberais d'amoureux. Alors je vous aurais volontiers raconté dans quelles circonstances je me suis rendu compte plus tard que Podane était en fait un homme. Mais les sangsues, n'auriez pas respectez mon passé. Les sangsues viettes qui jadis me vampirisaient le fondement m'ont rendu à jamais la position assise intenable au-delà de 3 minutes. Aussi vais-je devoir vous quitter, tout en vous renouvelant ainsi qu'à nos auditeurs présents dans ce studio et partout dans le monde.
Bonne année, ouais.
Y compris outre-mer.
Ah ouais, dans les colonies.
Les colonies. Et colonies, c'est...
Arrêtez, maréchal. Je ne vous laisserai pas dire ça.
Non, tous mes voeux de félicité. Bonne émission.
Merci, maréchal.
Voilà, comment commencer une année en beauté. On avait l'élégance, la grâce, la distinction de Marie-Agnès Gillot. Et puis on a le maréchal qui ne peut pas s'empêcher de passer une tête. Marie-Agnès, je me demandais, être sur scène...
Ou autre chose.
Ah ben non, Marie-Agnès, c'est pas vous.
Ça peut arriver.
En 2019, comment sont les chapeaux de roue? Voilà. Ravi de vous avoir.
Je vais rester.
Un vrai plaisir.
Marie-Agnès. Marie-Agnès, être sur scène, alors forcément vous avez l'habitude de la scène, du public, des grandes soirées, des grands événements. Là, c'est un peu différent, on vous demande de jouer aussi la comédie, d'avoir un texte et de le tenir, d'être en lien avec vos partenaires. Comment est-ce que vous avez appréhendé ça ?
En fait, c'était tout naturel d'engager la voix sur scène. Ouais. Je pense que c'était un art qui me manquait à mon actif.
Ouais.
Et c'est très... Je sais pas comment vous expliquer, c'est tout naturellement, c'est venu. Il y avait quelques chorégraphes qui m'avaient fait parler déjà en scène, comme Préjlocage et Béjart.
Ouais.
Je faisais déjà un peu des hystériques cruches, mais là j'ai vraiment pris le pan de la cruche. de la reine cruche qui répète, qui est auto-centrée, qui est un petit peu non intentionnée, mais très attentionnée pour les autres, mais non intentionnée en fait.
Ouais, c'est ça. Elle est un petit peu dans son univers à elle.
Elle est dans son monde, la fille.
Ouais. Et donc ça a été assez naturel finalement d'appréhender la scène comme ça.
Très naturel.
Non pas que vous soyez une cruche, Marie-Agnès, je n'ai pas dit ça.
Non, je suis une croche, pardon. Je préfère la musique.
Non, mais vous avez eu un training particulier ou pas?
Pour faire la cruche?
Non, pour incarner ce personnage, à savoir la mère du prince. J'étais un peu cruche, hein, le prince aussi, hein, on va pas se mentir. Je veux dire, dans l'histoire, c'est quand même pas un dégourdi.
C'est un prince.
Oui, c'est un prince. Mais non, mais pour une fois qu'on n'a pas des personnages masculins trop. Voilà, qui prennent trop de place, celui-là, c'est vrai qu'on est tranquille.
Ah, ça y est, ça va. Ah,
c'est bien. Voilà. Ah, c'est vrai. Moi, il m'a toujours agacé. J'avais toujours envie de le secouer, ce prince. Il ne fait rien. Enfin, bon, pardon.
Bah, revenons. C'est vrai. Normal, ça va, là.
Oui, c'est vrai. Revenons.
Il demande un cake.
Il y a un trauma qui revient.
Ouais.
Qui
remonte, là.
Et justement, la chanson du prince, allez, on y va.
Que me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande. Si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages, j'ai bien cru reconnaître son regard.
Oh là là.
Et après tu me demandes qu'il allait pas.
Mais c'est bon.
Non mais c'est un ingénu en fait.
Oui, c'est ça.
On en a peu des comme ça.
Pourquoi c'est si fatigant chez lui?
Ouais, parce que je le trouve pas très...
Il a pas d'intériorité.
Ouais, il est pas très entreprenant. Il est pas elle traverse plein de choses.
Non mais toi t'aimes les brutasses, c'est pas...
Non, je n'aime pas les brutasses, mais un minimum d'entrain.
Non mais lui en plus c'est un peu une enveloppe vide.
Il est très sensible, il est sensible.
Oui. Il a une vie intérieure très riche.
Ouais, c'est ça. On n'a pas l'impression que c'est un personnage à proprement parler.
C'est vrai. Il est un peu là parce qu'il faut un homme et puis il faut que la princesse trouve un prince. Enfin, il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. Et côté, alors, ce qui est très très beau dans ce spectacle aussi, c'est toute la dimension chorégraphiée aussi. Est-ce que là, vous aussi, Marie-Agnès, vous chorégraphiez vous-même, on va en parler dans vos projets, vous avez déjà été chorégraphe et tous les mouvements d'ailleurs que vous faites sur scène, j'imagine qu'ils viennent uniquement de vous, de votre fantaisie.
Oui, c'est des propositions qu'on a fait au metteur en scène.
Ouais.
Donc c'est vrai que la mise en scène, c'était, ils nous donnaient quelques filons, et puis après on proposait en fait une façon de bouger en scène, une façon de faire et tout. Et moi je me suis même pas rendu compte que en fait je parlais tout le temps de dos.
Oui.
Donc, on m'a dit, en fait, tu es une grande actrice, parce que si tu parles de dos et qu'on comprend, c'est très bien.
Maintenant, retourne-toi de temps en temps.
Non, la voix est hyper bien placée. Non, il y a quelque chose, en effet, de très naturel. C'est-à-dire que quand je vous ai vue, je me suis dit, mais elle a toujours été là. Ça donne des envies pour la suite de continuer à faire de la scène, du théâtre?
Oui, ça me donne envie d'accepter des projets qui sont beaucoup plus durs, où je suis seule en scène, où c'est une heure toute seule, où je ne me sentais pas encore capable.
Ouais.
Et c'est vrai qu'avec cette expérience, je pense que je peux y aller.
Ouais.
Je pense qu'on peut y foncer.
Il y a déjà des idées,
Oui, il y a des belles choses.
On en reparlera tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure.
Des projets, je ne sais pas si elle en a. En tout cas, on est ravis de la retrouver en 2019. Marina Rollman.
Marina.
Bonne année, Marina.
Aujourd'hui, bonne année à vous tous. Aujourd'hui, on parle de Peau d'âne et ça me fait plaisir parce que non seulement j'ai grandi avec le film et c'est grâce à lui que déjà je ne suis pas mariée avec mon papa. Hein. moi, à 7 ans, vous m'auriez posé la question, j'étais à deux doigts de m'appeler Rollman. Et puis bon, voilà, Delphine Seyrig est arrivée. Et voilà. Et deuxièmement, depuis Peau d'âne, je me sens le droit de casser les couilles à chaque fois que je vais faire du shopping. C'est incroyable, ça te donne une permission. T'es là, le col roulé, oui, mais vous l'auriez en 36 et en couleur de temps? Non. Et alors, mettez-moi une couleur de lune? Non plus. Alors, on va prendre taupe, Jessica, mais vous n'y mettez pas du vôtre. Hein. Et puis surtout, je suis très heureuse qu'on parle de comédie musicale parce que c'est une de mes passions. Et en bonne despote, je pense que ça devrait être la passion de tout le monde. Sincèrement, je pense vraiment que c'est la meilleure façon de commencer l'année. Alors évidemment, allez voir Peau d'âne au Théâtre Marigny si vous en avez l'occasion. Mais si vous n'êtes pas à Paris, profitez de cette période de flottement léger, là, cette petite gueule de bois qu'on a tous. Cette douce mélancolie, cette angoisse de veille de rentrée pour regarder des comédies musicales, les amis. Voici donc mon petit classement parfaitement subjectif et totalement nécessaire des comédies musicales à voir cet hiver. Alors, en premier, celle dont on a tiré le plus de remakes, Une étoile est née. Ah. Et oui, parce qu'on se dit Lady Gaga et Bradley Cooper, c'est les premiers, mais pas du tout. Avant eux, il y a d'autres gens qui se sont attelés à cette magnifique histoire de vieille gloire alcoolique qui repère une ingénue pleine de promesses. Avant, il y avait bien évidemment eu Bernard Tapie et Doc Gynéco. et en 1954, Judy Garland et James Mason. Alors, c'est moins drôle que Tapie et Gynéco, mais ça, vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir Une étoile est née. La comédie musicale qui a le plus niqué des chaussures, Singing in the Rain, voilà, un classique. Si vous aimez la vie, regardez-le. En revanche, prenez de l'imperméabilisant. La comédie musicale la plus anti-nazie, parce que bon, je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais je le redis au risque de choquer. Moi, les nazis, c'est pas mon dada. alors, je suis sûre que tout un chacun
la culpabilité de la Suissesse.
Oui, non,
moi, je sais.
Toi, tu sais quoi?
que
c'est.
Ce que c'est. Ah oui, je sais. Oui, je sais que tu sais. Cela dit, bon, j'imagine qu'il y a des gens peut-être qui ont des très bons amis nazis qui me prouveraient que j'ai tort d'être butée. Mais voilà, j'ai mes petites réserves, c'est mon truc. Et alors, donc, pour les gens qui partagent ma retenue quant aux nazis, il ne faut pas hésiter à regarder
La Mélodie du Bonheur.
Bravo. Où on voit des enfants en culotte de cuir, l'air très avenant, chanter l'espoir et finalement accomplir le destin que je souhaite à tout le monde, c'est-à-dire déménager en Suisse.
C'est vrai en plus.
C'est vrai. La comédie musicale la plus pro-nazi, parce que j'essaye d'être fair play, c'est The Producers de Mel Brooks. Alors c'est l'histoire de producteurs à Broadway qui se rendent compte que financièrement ils auraient meilleur temps de faire un flop. Et qui décident donc d'adapter le pire script qu'ils aient jamais reçu, c'est-à-dire Le Printemps d'Hitler. Et donc c'est un film très drôle, ça n'a pas l'air comme ça, je vous promets, c'est un film très drôle, qui contient une de mes répliques cultes qui est « Le Führer était un peintre hors pair, il pouvait peindre toute une pièce en une heure et attention, deux couches
».
La comédie musicale la moins politiquement correcte, c'est All That Jazz. C'est l'histoire... Vous aimez Marianne?
J'adore.
C'est beau. Bob Fosse, on aime. Hein.
Bob Fosse.
Alors c'est l'histoire quasi autobiographique de Bob Fosse qui est également metteur en scène de théâtre musical. Et donc le film dépeint un personnage de metteur en scène en pleine répétition pour son nouveau spectacle ou pour tenir le coup entre le travail, la vie personnelle et les angoisses. Il aussi entre un sain régime de médicaments, cigarettes et sexe. Après, parfois, quand il n'y a plus de cigarettes, il fait un peu plus de sexe. Et quand il n'y a plus de sexe, il prend un peu plus de médicaments. Mais dans l'ensemble, c'est des bons indices pour comprendre comment ça se fait que Bob Fosse soit décédé à 60 ans en ayant divorcé 3 fois. La comédie musicale maintenant qui a vraiment buté le français pour tous les étrangers du monde,
oui.
Moulin Rouge. Ah. C'est pas qu'on n'aime pas voir Nicole Kidman tousser du sang sur les toits de Montmartre, mais ça a quand même remis au goût du jour Lady Marmelade, qui est quand même la chanson à l'origine de ces grands moments de gêne. Quand t'es genre chez un ophtalmo, dans le Kentucky, il a 67 ans, des poils sur les oreilles, une photo de sa femme sur le bureau. Et quand il entend que tu viens de France, il dit « Oh French, voulez-vous coucher avec moi ?» Et toi, t'as envie de dire « Mais c'est presque pénal de le dire dans ce contexte, en fait. » Mais à la place, tu fais « oui,
non. »
La comédie musicale la plus folle, ça, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu autour de la table, « La saveur de la pastèque ». Vous voyez ce que c'est ?
Non.
Si vous
non.
aimez le sexe, les pastèques et le sexe avec les pastèques, ouais. Bon, alors peut-être déjà faut en parler à des spécialistes. Et en même temps, 2019, je pense que c'est bien d'arrêter de se juger les uns les autres. Et en plus, ça tombe bien. Donc, c'est un film pour vous. C'est un film de Tsai Ming-liang qui date de 2004 et qui est vraiment très rigolo. Et enfin, mon chouchou personnel, c'est un film de Jerry Lewis, c'est The Ladies Man. Mm-hmm. C'est vraiment super. Albert Algou, pas de réaction sur Jerry Lewis ?
Aussi, c'est un génie.
Ah voilà. Ah, voilà.
Voilà, la ponctuation.
Voilà, donc Grease, Fiddler on the Roof, Le Magicien d'Oz, Victor Victoria, The Wiz, Mary Poppins, Les Demoiselles de Rochefort, ou des choses plus contemporaines comme Dance Up School of Hot Vampire Step Down for the Last Dance 4.
T'es sûr ?
Je sais pas, exactement. Ouais. Toujours est-il, vous voyez des comédies musicales, parce que est-ce que c'est pas le meilleur remède pour croire aux utopies que d'imaginer que vous pourriez être là dans la rue tranquillement quand soudain on saute sur des bagnoles et là il y a des inconnus qui semblaient hostiles et qui se retrouvent tous ensemble à danser du même pas et à chanter juste. C'est chouette,
don't
hein, quand même.
Tell me not to live, just sit and putter.
Funny Girl.
Life's candy and the sun's a ball of butter.
Ouais. Don't bring around a cloud.
Extraordinaire, génial.
Non, j'écoute, j'ai recueilli.
Génial. Bravo Marina.
Merci Marina.
La bande originale.
Ouais, ça donne envie d'aller
J'en ai vu plein.
Ah, t'en as vu quelques-unes,
Fred ? Il y en a beaucoup que j'ai aimé.
Ah, lesquelles ? C'est quoi les musicales bonhommes ?
En fait, j'aime bien La Mélodie du Bonheur parce qu'en fait, il y a un côté désuet, mais en même temps hollywoodien. C'est-à-dire que c'est... Il n'y a pas le côté décalé. En fait, dans Podane, il y avait aussi ce décalage qui me gênait beaucoup. Il y avait un truc un peu glauque. Et alors que dans La Mélodie du Bonheur, je les trouve... voilà,
c'est premier degré.
Ouais, premier degré. J'aime bien ça. Singing in the Rain, pareil.
Je sais pas ce qu'il a contre Paul Dan, mais
je sais pas, on va lui offrir un coffret. On va faire quelque
mais oui, chose. Mais oui, ouais. Mais moi j'adorerais mettre des colons.
Marianne Gillot est avec nous jusqu'à midi et demi dans la bande originale, celle du 1er janvier. C'est au théâtre Marigny. Hubert Lenoir, recommencé sur France Inter. Excellente année à tous.
Les vêtements sont une suite sur toi.
Recommencer Hubert Lenoir dans la bande originale sur France Inter.
Et on est toujours avec Marie-Agnès Gilot ce 1er janvier 2019 sur France Inter pour parler de Peau d'âne, le retour de la comédie musicale. Ça sera au Théâtre Marigny. C'est au Théâtre Marigny jusqu'au 17 février. Et on va aborder votre vie, Marie-Agnès.
Oui, c'est la bande originale de la vie de Marie-Agnès Gilot. On commence dans les années 80, 1984. Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce.
Et Marie-Agnès, vous êtes admise à l'école de danse de l'Opéra National de Paris, on est en 84.
85, pardon.
85, vous quittez votre famille.
Je quitte ma famille pour partir sur Paris, rentrer à l'école des petits rats de l'Opéra.
Vous avez 9-10 ans, c'est ça ?
9 ans et demi.
Ouais, c'est compliqué ça, j'imagine.
C'est très dur, ouais. Ouais. C'est très dur.
Je crois que votre maman, vous écrivait une carte postale tous les jours au début.
Ouais, j'étais trop chanceuse. Ouais. J'avais une maman qui était... tellement énorme. Elle m'a écrit une lettre ou une carte tous les jours.
Il paraît que c'est pendant 5 ans, elle l'a fait.
Ouais.
Parce que c'était compliqué seule avec... Parce que vous êtes avec d'autres petites filles, donc on peut imaginer aussi que vous allez tisser
des liens. Oui, on est avec les petits rats, quoi.
Ouais. Ah ouais, non mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, parce qu'on imagine quelque chose d'hyper mignon, gentil, et en fait pas du tout.
Non.
Non, c'est déjà la compétition si tôt.
Oui, et c'est ça qui m'a un peu frustrée quand je suis arrivée à l'opéra, d'être tout de suite
dans la guerre, quoi.
Dans la guerre, quoi. Ouais.
Et déjà à cet âge-là.
Ouais.
Toute petite, c'est déjà la compétition.
Surtout toute petite, parce qu'on est une case de 12, on en garde 6, quoi.
Ah ouais, donc il y a un vrai crémage qui est un peu violent. Et à l'âge de 12 ans, votre corps grandit beaucoup, je crois 12 cm en une année. Ouais. Ce qui fait qu'on vous diagnostique une scoliose.
Oui. Une double scoliose. Ouais.
Double scoliose. Alors, qu'est-ce qu'on met en œuvre à partir de ce moment-là ? Parce qu'on peut se dire, c'est fini pour elle.
Ah bah, c'est fini pour elle, en général.
Ouais, c'est vrai.
Mais j'ai eu un médecin bien traitant qui a cru en ma force et ma volonté. Et je lui ai, s'il vous plaît, ne m'opérez pas, ne me paralysez pas. Parce que, bon, voilà, c'est une opération, c'est une barre de fer dans le dos. Voilà, c'est ça le résultat.
Et après, c'est fini pour la danse.
Et c'est fini pour la danse. Ouais. Et je leur ai dit, non, excusez-moi, je peux essayer encore. Et donc, j'ai fait de la rééducation. Donc, moi, j'avais séance de kiné tous les week-ends au lieu de cours de danse particulier. Ouais. J'avais cours de particulier de kinésithérapeute.
D'accord.
Et puis après, j'ai fait de la natation à un niveau parce que ça suffisait pas. Là, du coup, ça a marché.
Vous avez beaucoup développé votre dos.
Ouais. Voilà, ouais, oui, j'ai pris vraiment une carrure masculine. Mm-hmm. Ça a beaucoup développé mes muscles, et donc je tiens mon ossature par mes muscles et non pas mes os. Voilà.
D'accord.
En 2004, vous écoutiez Jean-Jacques Goldman. Il suffira d'un signe. Et la date importante, c'est le 18 mars.
Ouais, vous êtes nommée étoile le 18 mars 2004. C'est après la représentation de Signe de Caroline Carlson qu'on avait reçue à ce micro. Vous avez 28 ans. Quel souvenir vous avez de cette journée en particulier ? Est-ce qu'il y a un élément qui revient tout le temps ?
Je me suis dit qu'il s'est fait un bon plaisir. C'était l'anniversaire de mon directeur. C'est-à-dire qu'il est né le 18 mars, monsieur Hugal. Il s'est payé une étoile le jour de son anniversaire.
Mais au-delà de ça, d'un côté plus personnel, Marie-Agnès, elle est incroyable.
Ben, moi, je l'ai beaucoup aimé ce jour.
Ouais, ben oui, vous l'avez fêté, comment?
Ben,
comment le fait?
En fait, on me l'avait tellement prédit, et donc à chaque fois, on me faisait des fausses joies.
Ouais.
Donc la fois où c'est arrivé, ben, il n'y a personne dans la salle pour moi.
Ah, c'est vrai?
Il n'y avait même pas ma mère. Ma mère, elle m'a dit, je me déplace plus. Hein. J'en ai marre. Ah. Ça fait 4 fois qu'on peut tomber.
Parce que elle vous a écrit tous les jours pendant 5 ans, il y a un moment.
Non, parce que vous ne savez pas avant le début de la représentation si l'annonce va être faite concernant.
En fait, c'est à la fin du spectacle, le directeur monte en scène et on vous nomme étoile. Mais il y a toujours des bruits qui courent en coulisses. Peut-être tu vas être nommée étoile ce jour-là. Peut-être tu vas être nommée. Donc à chaque fois j'appelais ma mère, maman monte sur Paris. Peut-être je vais être nommée étoile. Et là, la fois où je dis maman, écoute, j'ai eu une phrase de ma directrice et j'adore Brigitte Lefebvre, qui me dit ta maman est dans la salle. Et là, ça veut tout dire.
Mais est-ce que la compétition continue, hein, ce mauvais esprit de compétition, est-ce qu'on va jusqu'à vous donner de fausses indications du style ça sert à rien, tu vas pas la voir, ou c'est pas pour toi ou...
Ah bah bien sûr.
Ouais, ça continue jusque-là.
Ah oui.
Donc en fait c'est sur tout le parcours.
Ah bah jusqu'à la fin, hein. Jusqu'à la fin, mon dernier jour même.
Eh ben ça fait rêver, on passe en 2007.
«
Et en 2007, c'est l'année de votre première création.
Et là, c'est Rachmaninoff. Et votre création, c'est Rare Différence. C'était en janvier, dans le cadre du superbe festival Suresne Cité Danse, où vous mêliez le classique et le hip-hop.
Oui, plutôt le contemporain et le hip-hop même. Donc en fait, j'ai pris deux danseurs de hip-hop que j'ai auditionnés. C'était des bombes atomiques. C'était en fait, je faisais une pièce sur Rodin, donc j'avais besoin de corps sublimes en fait. Et j'adore cette physicalité et des danseurs de hip-hop qui sont beaucoup plus costauds et musclés et beaux que les danseurs classiques qui sont des fois un petit peu filandreux, si je peux dire.
Oui, c'est vrai que physiquement, il n'y a pas photo de ce point de vue-là.
Ça va, toutes les deux?
Ça va super.
Non, mais on aime la danse.
Le ton de Leïlette, il a dit tellement de choses.
On aime la danse, on observe.
Moi, j'aime les corps et j'aime ces corps qui sont travaillés, qui sont sculptés. Et je pense que les danseurs de hip-hop se rapprochaient plus à la sculpture de Rodin que les danseurs classiques, pour dire gentil.
Et cette première création, ça vient dans quel moment? C'était un vieux désir déjà de se dire que vous alliez être à la tête d'une chorégraphie comme ça?
En fait, c'est très bizarre, la création, ça m'est vraiment passé dessus. En fait, je savais pas comment j'allais sortir ça. Et Pina m'a dit, mais t'inquiète,
Pina Bosch?
Le premier pas de deux que j'ai créé, elle m'a dit, non, t'es quoi ça? Bah rien, j'ai fait un petit pas de deux avec mon copain quoi. Ah non, mais elle me dit, mais t'as énormément de talent, il faut continuer quoi. Et donc en fait c'est elle qui m'a poussée et du coup j'ai pu aspirer à des choses que je ne soumettais pas, parce que c'est vrai que de danser avec des danseurs de hip-hop, ça se faisait pas quoi, même en 2007-2008, c'est pas encore trop...
Le mélange des genres était pas encore très accepté, Et c'est parce que c'est pas forcément systématique. On peut être une excellente danseuse et pour autant ne pas être en mesure de créer.
Bah c'est complètement un autre métier. Hein. C'est comme réalisateur et acteur, quoi. Je veux dire, c'est complètement autre chose. Il faut créer la musique, il faut avoir l'image en tête, il faut avoir une scénographie, il faut avoir une musicalité, il faut avoir. Enfin voilà, c'est un autre métier. Interprète, c'est beaucoup plus facile. On attend les corrections.
Alors revenons à Podane qui est au théâtre Marigny jusqu'au 17 février avec notamment Marie-Agnès Gillot, mais aussi on en a parlé rapidement de Claire Chazal qui ouvre le spectacle en qualité de récitante avec tout un tas d'interprètes formidables. Il y a pas une fausse note, il faut le dire, c'est un spectacle merveilleux. Nous a rejoint Bernadette Bricout. Bonjour Bernadette.
Bonjour, vous êtes chercheur au CNRS. Bonne année.
Vous êtes professeur de littérature orale de l'Université Paris Diderot et vous avez publié récemment La clé des contes aux éditions Seuil. Alors reparlons de ce conte, on parle de Charles Perrault. Quelle est la première trace de l'histoire de cette Podane?
C'est une question à laquelle on n'a pas de réponse parce que les contes remontent à la nuit des temps. Mais pour ce qui concerne Podane, et la nuit des temps, c'est beaucoup plus long que cette nuit de 1er janvier que nous venons de vivre.
On a eu un réveillon difficile, Bernadette.
Donc on se réveille peu à peu. Mais je ne fuis pas la question.
Ça ressemble un peu à ça, Bernadette.
En 1557, c'est-à-dire 150 ans avant la version de Perrault, on a déjà quelqu'un qui va nous parler de cuir d'aneth. Alors la peau de l'âne est plus dure à ce moment-là. Et on a au fond des références à peau d'âne comme un conte qui est vraiment un conte, peut-être le conte de la tradition orale, celle des grands-mères qui racontent aux enfants, celle de la tradition orale. Et donc Perrault va reprendre cette version, mais elle est évidemment, elle a des siècles d'existence déjà.
En tout cas, c'est la version aujourd'hui qui est la plus connue. En tout cas, on associe Podane à Perrault. Est-ce que l'accueil a été tout de suite bon à l'époque de Charles Perrault? On est en 1694, je crois.
Oui, mais... Podane, la version de Perrault qu'on ne lit plus beaucoup ou qu'on ne lit pas beaucoup dans le texte, est une version en vers. Comme Les Souhaits Ridicules, comme Griselidis, et c'est plus difficile à lire, je crois, que la chanson de Michel Legrand pour Le Cake d'amour. Vraiment, c'est-à-dire que ça met à distance, et ça met à distance aussi du lecteur enfantin.
Oui. Le sujet de l'inceste, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, a dû provoquer des réactions assez différentes selon les époques.
Vous êtes des lecteurs contemporains.
Oui.
Vous êtes des enfants de Freud. Le comte ignore ces lois-là.
Oui.
Vous le rappeliez tout à l'heure, quel enfant n'a pas rêvé, quelle petite fille n'a pas rêvé d'épouser son père, surtout s'il avait la figure d'un prince charmant.
Oui, alors ça, dans ce sens-là, je comprends bien, sauf que dans Peau d'Âne, c'est le père qui veut épouser la fille.
Enfin, oui,
c'est...
mais attendez.
Qui n'a pas rêvé d'épouser
sa fille. Oui, mais attendez. Le comte nous parle d'un monde régi par d'autres lois.
Oui.
Et en fait, le père, et c'est évidemment tout le pouvoir du comte, mm-hmm. il a été fidèle à la promesse faite à cette femme mourante qui lui a fait jurer de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. D'une certaine manière, il respecte à la lettre la promesse faite à l'épouse. Donc c'est un peu complexe. D'ailleurs, vous verrez qu'à la fin, finalement, la réconciliation s'opère.
Oui.
On oublie ce père incesteux. Non, MeToo n'est pas passé par là, pas encore. Pas encore.
Alors
non,
les psys doivent s'intéresser pourtant à ce récit. Alors que ce soit Barbe Bleue, il y a plein de contes comme ça qui ont été revisités par des psys qui expliquent un petit peu ce qu'il peut y avoir dans la tête des enfants. Est-ce que Peau d'Âne a fait l'objet d'études en particulier ?
Bien sûr, mais il faut dire que le conte, c'est peut-être ce qu'on dit le plus fréquemment, alors ça va être le scoop du matin, il ne s'adresse pas seulement aux enfants, ou alors il s'adresse à l'enfant qui est en nous.
C'est pour ça qu'on aime encore autant Peau d'Âne.
Mais bien sûr, toutes les
vous
générations
fâchez pas,
étaient rassemblées autour du conte. Je me fâche pas du tout. Mais moi, Peau d'Âne me parle.
Oui.
Peau d'Âne me parle autant et autrement qu'à l'enfant de 5 ans que nous avons été.
Oui. Hein dans certaines versions du conte, on parlait tout à l'heure de cette âne qui donnait des pièces d'or. Est-ce qu'il y a d'autres détails qui varient selon l'adaptation ? Je crois que cette âne n'a pas toujours été pourvoyeur de la richesse du royaume.
C'est vrai, cet âne-là, il est plutôt particulier à la version de Perrault. Mais il y a d'autres choses qui vous raviront, messieurs. Il y a par exemple, dans les versions orales, l'arrivée au bal, qui est d'ailleurs commune à Peau d'Âne et à Cendrillon.
Oui.
Et quand Peau d'Âne arrive, dans les versions orales, le prince lui demande d'où elle vient. Et elle dit, selon les versions, « Je viens du pays du balai, je viens du pays du torchon. » Et le prince, avec une ingénuité superbe, répond « Je ne connais pas ce pays-là. »
Alors,
je ne sais pas si les choses ont beaucoup changé.
Ah, enfin, on défend ce prince.
Le pays du balai, je connais.
Bravo, Marie-Agnès. Plus généralement sur le conte, puisque là, on parle de Peau d'Âne, mais si on étend un peu notre réflexion, qu'est-ce qu'on doit retenir d'un conte ? Quelle est la vertu d'un conte ?
Qu'il nous apprend, j'écoutais avec passion l'évocation du parcours de Marie-Agnès, l'art de naviguer dans les torrents.
Mm-hmm.
La capacité à pouvoir résister aux épreuves que la vie nous réserve. Et quand même, il y en a beaucoup. Bon, on rit beaucoup. Là, on est dans un moment de jubilation partagée. C'est le premier de l'an, c'est le moment des bonnes résolutions. Ouf. Mais il y a des moments difficiles.
Ouais.
Et dans ce cas-là, le conte nous indique, et c'est pas une fausse promesse, que quoi qu'il arrive, toi aussi, tu feras ta place au soleil et que ce chemin fait sens. Le mm-hmm. pire, je crois, pour nous, c'est l'absurde. C'est des épreuves pour rien. Mais des épreuves pour se construire, des épreuves pour devenir plus fort, des épreuves pour aller au-devant de quelque chose qui ressemble à une vie épanouie. C'est ça, je crois, que nous enseigne le conte. On dit que ce sont des perles de sagesse.
Ouais. Est-ce que, justement, ces contes voyagent bien ? Est-ce qu'on n'a pas, finalement, on parle toujours de différentes cultures, est-ce qu'on n'a pas, en partage avec beaucoup de cultures, des contes assez semblables ?
Ben d'abord, les contes ne connaissent pas de frontières.
Mm-hmm.
On a des versions de Peau d'Âne sur des continents et dans des cultures très éloignées. C'est le cas d'ailleurs aussi pour sa sœur Cendrillon, qui en est très proche. Cendrillon a été recueillie sur les 5 continents. Les contes ne connaissent pas de frontières. Réfléchissez un peu. Peau d'Âne, sous sa Peau d'Âne, à la porte du château, qui est vraiment vécue comme une reléguée, c'est aussi une figure de l'autre, une figure de celui qui ne trouve pas sa place dans nos société,
mm-hmm.
une figure de celui qui vient d'ailleurs et qui, caché sous sa Peau d'Âne, cache peut-être une beauté que personne ne voit.
Ça, c'est dans la chanson des insultes qui sont adressées à Peau d'Âne, notamment, où on voit bien qu'elle est considérée comme l'étrangère, comme l'autre, parce qu'elle ne ressemble pas au reste de la population.
Quelle calamité ! Elle doit être malade ! On me dit que sa peau cache une infirmité ! Peut-être la pelade, regardez cette allure. On ne peut distinguer ses mains de ses... sa figure. Avec ses poils partout, ça me fait grand dégoût. Une regarde chance de rencontrer le prince.
Avant de l'embrasser. Bernadette Bricout, quel conte vous nous recommandez? On parle de peau d'âne, mais on a tout, parfois envie de se replonger dans des contes. Vous, votre sélection, vous êtes la spécialiste.
Oui, oui, non, la spécialiste, non. L'amoureuse, oui.
Alors, l'amoureuse, c'est... l'amoureuse. J'aime autant demander à l'amoureuse.
Je veux bien l'amateur ou l'amoureuse. Alors, la spécialiste, l'amoureuse. C'est un peu lourd à porter. Non, le conte qui vous parle, les enfants le savent bien. Le conte qui vous parle et que vous avez envie de demander encore et encore. Vous savez, comme Bridget Jones, quand elle regarde, c'est pas un conte, mais ça pourrait en être un, quand elle regarde Orgueil et Préjugé en boucle. Ouais. L'histoire dont vous avez besoin à ce moment-là. Et les enfants, on sait, on connaît tous des enfants qui vont réclamer un conte à l'exclusion de tous les autres. Il faut le suivre. Il faut pas se demander pourquoi. On n'a peut-être pas besoin de relire Bettelheim à ce moment-là, l'enfant sait quelle est l'histoire qui va l'aider à grandir. Eh bien nous, quelle est l'histoire qui va nous permettre d'élargir les murs de la vie et de faire que ce matin, 1er janvier, soit encore plus beau que tous les autres.
Alors vous, l'amoureuse, c'est quoi votre conte dont vous avez besoin?
Attendez, c'est une question très intime. J'allais vous dire, je vous le dirai quand nous nous connaîtrons mieux.
Mais c'est une façon de se connaître, peut-être.
Oui, c'est une façon d'entrer en contact.
Moi, j'adore cette réponse.
Bernadette.
Mais écoutez, je vais vous répondre, mais je vais vous répondre en parlant d'un enfant qui m'est proche et qui m'est très cher et à qui j'ai demandé un jour « Quel est le conte que tu préfères ?» Et je croyais connaître la réponse. Et il me répond « Les trois petits cochons ». Alors, « Les trois petits cochons », j'étais heureuse, c'était le seul conte que j'avais moi-même réclamé dans mon enfance. Il me dit, je sais bien pourquoi, le petit cochon maçon, il va être prêt quand le loup arrive. Et je demande à cet enfant, qui avait alors 4 ans, « Mais pourquoi ?» Ah, mais il me dit, c'est très simple, parce que c'est notre histoire. Notre histoire ? Oui, toi maman, tu as toujours vécu dans... des maisons en paille. Alors le loup est venu, il a soufflé, la maison s'est envolée et tu as couru chez papa. Je vous parle d'une époque, n'est-ce pas, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, eh bien, tu as couru chez papa, vous vous êtes enfermé dans sa maison en bois et le loup est venu, il a soufflé, la maison de papa, c'était un peu plus costaud, mais à peine. Alors ensuite, vous êtes venus tous les deux dans ma maison. Et là, le loup, il peut rien faire. Parce que ma maison, c'est celle que même le souffle du loup ne peut pas détruire. Alors, il n'a pas dit exactement dans ces termes-là. Il avait revisité le roman familial. C'est l'enfant qui construit la cellule familiale. Et finalement, à l'heure des familles recomposées, moi, je trouve que ça mérite d'être médité.
Merci beaucoup, Bernadette Bricout. Je rappelle, la clé des contes, on peut l'applaudir, bien entendu, aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous, Bernadette.
Un être plein de poils qui a été mal accueilli, ça me rappelle les débuts d'André Manoukian, moi, quand il était arrivé sur France Inter. Enfin, maintenant, c'est un héros de l'antenne. Un autre héros de l'antenne, c'est Tanguy Pastoureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Alors Tanguy, comme chaque année, à la même époque, évidemment, on prend de bonnes résolutions.
Oui, mais c'est nul. C'est comme de suivre Benoît Hamon sur Instagram, ça sert à rien. En tout cas, tant que Kim Kardashian, il y aura un compte. Perdre des kilos, faire du sport, être gentil, ça amène à quoi? Il y a déjà Michel Drucker. Donc cette année, rien de tout ça, ça va être l'orgie. On va manger, boire et fumer tout ce qui passe.
Ouais, exactement, je suis d'accord avec ça. Marie-Agnès Gillot est avec nous jusqu'à 12h30. Bonne année sur France Inter. C'est le retour de la bande originale, toujours sur la grille. Bonne année à tous en ce 1er janvier. Avec nous, Frédéric Sigrist, Marina Rollman, Albert Algou.
Bonjour
Tanguy Pastoureau.
Bonjour.
On va retrouver dans quelques instants. À ma gauche, souriante comme un petit rat de l'opéra, Leïla Kadour Moudadi.
Bonjour à tous, c'est notre invité, toujours Marie-Agnès Gillot. Bonjour. Joie, bonheur de commencer cette nouvelle année avec une étoile, Marie-Agnès Gillot, sur scène dans Peau d'Âne au Théâtre Marigny jusqu'au 17 février, qui marque aussi la réouverture de ce lieu. Alors, j'ai pas cité tout à l'heure toute l'équipe, parce qu'il y a du monde. On sait que c'est tiré du film de Jacques Demy, adapté du conte de Charles Perrault et de la musique de Michel Legrand. Mais sur scène avec vous, Marie Aupert, Michael Denard, Emma Kate Nelson, qui incarne cette marraine fée fantasque absolument exceptionnelle. Chanel, Mathieu Spinozzi, Olivier Frege, Christine Gagneux, Franck Lopez, et ainsi que Claire Chazal, pour donner quelques grands noms. La direction musicale aussi, ça compte. C'est Thierry Boulanger et Patrice Perrieras. Vous êtes en contact un peu avec aussi la dimension musicale de la troupe, Marie-Agnès?
Bah, juste, enfin,
vous chantez à la fin, vous chantez.
Oui, ouais. Mais non, enfin, là dans cette pièce, pas trop. Ouais, moins que d'habitude, on va
dire.
Mais
vous chantez en revanche.
Mais par contre, la dernière, le bis, en fait, on chante tous. Ouais. En fait. Donc voilà, je me tente à la chansonnette.
Et la direction artistique, c'est Emilio Sagui avec Daniel Bianco. C'est un travail absolument exceptionnel, surtout quand. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, quand on a aimé le film, souvent on se dit autant rester sur ce souvenir qui est beau, qui nous plaît, qui est intact, et tenter d'aller voir un spectacle qui reprend Peau d'âne, ça peut être risqué. Eh bien, allez-y, les yeux fermés, vous ne serez pas déçus, bien au contraire, les créatures que vous avez tant aimées prennent vie devant vous. Est-ce qu'il y a une tournée qui est éventuellement prévue en province?
Alors, je ne sais pas encore, non, je ne peux pas vous dire, mais...
Le succès est tellement au rendez-vous parce que...
Je sais qu'on rajoute des spectacles, en tout cas.
Ouais, vous rajoutez
à l'heure actuelle, on rajoute des dates. Ouais. Ouais. On fait des matinées soirées le dimanche, maintenant, ce qui n'était pas prévu, voilà, donc on rajoute des dates. Le 3 et le 4 aussi, on a rajouté des matinées soirées, donc dans deux jours.
D'accord.
3 et 4 janvier, matinées soirées... Donc voilà,
deux représentations par jour pour
vous.
Oui,
parce que ce sont les vacances, donc du coup, en fait, on fait des doubles, en fait.
Ouais, mais donc, ça vous permet de vous dépenser comme ça, Marie-Agnès?
J'adore me dépenser.
Lui aussi, il adore se dépenser. Merci. Et il est là, regardez-le. Oh, il est magnifique, ça lui réussit, hein, la cuite. Vous avez compris de qui je voulais parler. Tanguy Pastureau, qui m'attrape la peau. Tanguy, regardez-moi. Vous avez l'œil torve, mais nous sommes le 1er janvier, donc bonne année, mon petit lapin.
Merci, bonne année à vous aussi, mon gros loup. Même si ça sert à rien de vous la souhaiter, parce que chacune de vos années ressemble à la précédente, consacrée à 100% à l'écriture de chroniques, hein, qui feront dire à vos fans, il a pas l'air comme ça quand on voit sa tête, mais en fait, il est très drôle. Et puis, ça sert à rien de se dire bonne année, puisque l'humanité court à sa perte. Émanation de CO2, fin des espèces, l'été à Mâcon, il fait 38 degrés, avec des conséquences terribles. Les gens portent des pantacourts. On est cuit, je pense qu'on ira pas jusqu'à 2020. Par conséquent, il faut kiffer, comme disent les jeunes, ces êtres répugnants qui nous écoutent pas parce qu'hier ils se sont mis une pile et sont encore en train de pioncer dans leur vomi. Il faut croquer la vie à pleines dents, 132 dents si on est le prince William, 3 dans un verre si on est Édouard Balladur. Il faut vivre comme si chaque instant était un diadème au-dessus de la magnifique chevron de Miss France. Donc les bonnes résolutions cette année sont annulées, on n'a plus le temps. Si par exemple vous avez décidé d'arrêter de fumer aujourd'hui, n'arrêtez pas, c'est super. Déjà quand on fume, on parle moins. Vous collez une clope à Fabrice Lucchini, il a juste le temps de parler de son film, mais pas de se mettre à hurler en plein JT « Comment elle va la de là-haut, c'est énorme !» Et puis, la laine du fumeur repousse les gens autour. Mettre la langue là-dedans, c'est comme lécher un trou de taupe. Donc si vous fumez, vous resterez seul et pourrez vous promener nu dans votre appart sans conjoint pour vous juger. On est toujours plus libre seul. Regardez François Bayrou, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire du kitesurf dans un champ avec un slip en dentelle, tout le monde s'en fout. Autre résolution qui ne tient plus, perdre des kilos, ça sert à rien. La vie est trop courte pour se priver, au contraire, il faut bouffer. Il fait comment, Depardieu? Tout ce qui passe, il l'avale. Un gâteau, il l'avale. Un gigot, il l'avale. Un pneu de bagnole, il l'avale. Vous le laissez faire, au bout d'un an, la moitié du pays est en lui. Et c'est un jouisseur, il est pas là à compter ses graines de boulgour avec un boulier comme Aymeric Caron, il s'éclate. Parfois, à Moscou, Poutine lui sert 20 kilos de bidoche. Depardieu dit, c'est bon, c'est quoi? L'autre répond, du veau. Et en fait, en cuisine, les mecs sont en train de découper des journalistes en disant, on adore décortiquer la presse. Le 1er janvier, les gens décident aussi de faire du sport. Du sport! Regardez-vous, les gars, l'antilope est conçue pour faire du sport. Elle a de fines pattes qui la propulsent. Elle décolle de la terre comme Ségolène Royal. Elle est élégante. Nous, on fait du sport, on est en moule melon en train de suer le long du périph. Les migrants qui vivent disent purée, si on avait su que l'Occident c'était ça, on serait resté à la Casa. Alep en ruine, c'est plus joli que Jean-Luc qui fait ses fessiers sur le banc du square. La salle de sport, moi j'ai tenté, je me suis inscrit à 2 janvier. Ouais. J'ai vu des gonzes bander leurs biceps qui faisaient la taille de 4 fois Lily Rose Depp, avec en fond la compilation Techno Zumba volume 16. Le 3 janvier, j'y allais plus. On est mieux sans muscles. Si vous en avez trop et qu'après vous portez un petit haut désigual, vous ressemblez à un gros eucalyptus en train de fleurir.
Alors vivre sa vie plus pleinement, Tanguy, est aussi l'une des bonnes résolutions qui est assez courante.
Oui, mais c'est parce qu'on y pense à 2h du matin alors qu'on a bu. Parce que sinon, on réalise que nos vies sont déjà pleines. On a Netflix, Amazon Prime Video. Tous les soirs, on peut faire une bonne soirée. Nos parents, eux, avaient fait le choix entre l'interview de Cookie Dingler par Sabatier ou des enquêtes de Maigret sur la mort d'une vieille dame dans la Haute-Marne. Une fois sur deux, sa conclusion, c'était « il s'agit d'un infarctus ». Pas étonnant qu'il tisait à table. Nous, on peut se poser devant les 18 saisons d'une série sur un serial killer nécrophile qui se masturbe sur des photos de Tekel. Hein, tranquille dans le canapé à manger des chips et fumer des clopes en évitant de penser au message alarmiste de Nicolas Hulot. C'est génial. Une autre bonne résolution souvent prise, c'est de s'occuper mieux de ses proches, les appeler. Mais enfin, là aussi, ça tient deux jours. Quand vous téléphonez une fois à votre oncle en Corrèze qui vous raconte juste qu'il est parti à la chasse aux champignons, la deuxième, vous lui dites, tu sais quoi, je pense que dans l'eau, il y en a des rouges avec des points blancs. Mange-les, tonton, tu vas voir, ce sont les meilleurs. Hein, et même avoir des proches. Est-ce nécessaire? Regardez-nous, hors antenne, on se parle pas, à part quand vous venez me voir pour me dire que telle ou telle chronique était excellente.
Hein,
on se réunit une fois par an pour la fête de fin de saison. Le seul moment où on a envie de faire la fête, c'est quand on s'apprête à se séparer. Alors je vous le dis, en 2019, on laisse tomber tout ça. Soyons tous moches, flasques, cons et associables. C'est pas dur, il suffit de lâcher prise. Hein, se dire, en fait, je suis bien comme je suis. Booba, il a plein de muscles, mais il s'en sert pas. Une fois, il s'est battu au duty-free de l'aéroport, il a fini en tôle après avoir essayé de sodomiser un ennemi avec un Toblerone. Hein, ce qui est absurde, car personne n'a l'anus en triangle, à part 2-3 francs-maçons particulièrement minutieux. On n'a pas besoin d'être parfait, ni même mieux que ce qu'on est. Parce que ce qu'on est, c'est fragile, mais c'est bien. On n'est pas des voitures qu'on tune pour faire les kékés sur le parking de Lidl. Être mince, être beau, pas prendre de drogue. Et je fais comment, moi, pour fournir 5 chroniques par semaine, plus la télé, plus les spectacles, avec du quinoa bio? Mais si je veux devenir l'humour Maurice numéro 1 et détrôner Castaner, j'ai pas le choix. Les bonnes résolutions, ce sont autant de reproches qu'on se fait alors qu'on est déjà super tel quel. Mangez, fumez, buvez, mettez-vous aux poppers, laissez tomber vos parents, oui, ces vieux cons, et carpe diem, parce que demain c'est peut-être l'apocalypse et on n'a plus le temps de perdre du temps.
Bravo, bravo,
bravo, bravo. La bande originale.
Je ne verrai plus le Toblerone.
De la même façon.
C'est vrai.
Surtout, merci, tu le rendras plus au même endroit.
Ne ramenez plus de Toblerone.
Merci à Tanguy pour ce petit rappel de géographie.
Personnel.
Voilà, du corps.
Intime, voilà, intime, là, bien
d'où
sûr.
Jésus.
Voilà. Et on revient dans l'élégance. On fait une petite transition comme ça. Chaud-froid avec peau d'âne, forcément. C'est ça. La féerie sur scène avec Marie-Agnès Gillot jusqu'au 17 février, sans doute encore plus, avec en effet plusieurs dates qui ont été rajoutées. Cette représentation exceptionnelle au théâtre de Marigny, c'est l'occasion d'aller passer aussi une bonne soirée, d'aller se promener aux abords du théâtre, de rêver avec peau d'âne et de sortir avec des étoiles dans les yeux. La première représentation, les premières représentations, Marie-Agnès Gillot, qu'est-ce que vous avez ressenti?
J'étais heureuse de retrouver la scène, en fait.
Ouais.
Je pense que ce qui me manque vraiment, en fait, c'est la scène.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Ça veut dire que j'ai pas besoin de la danse pour m'exprimer, que je, en fait, du moment que je suis en scène, que je suis dans un spectacle vivant où je produis de l'émotion ouais, du mouvement, même si je fais qu'un kick de tour, dans la rigole. c'est cette féerie là que j'aime, en fait, c'est d'être présente, de faire de l'éphémère, en fait, de faire de l'art vivant, ce qu'on appelle.
Ouais, ça serait impossible d'imaginer de ne plus être sur scène, en fait.
Ben, j'ai du mal, quoi.
Ouais. Non, mais c'est comme c'est un besoin, un sincère besoin, en fait.
Oui. C'est vrai que mon art était la danse, mais là, je vois que le théâtre est aussi abordable. Là, je commence le chant.
Ouais.
Donc,
vous aviez déjà fait du chant enfant, je crois, du chant lyrique.
Oui, j'avais fait de la chorale, en fait.
Ouais.
Mais j'avais pas fait du. Enfin, voilà, j'avais pas. Là, c'est vraiment très très intéressant. J'ai du courbatures au visage, quoi.
Oui, vous découvrez
ça m'est jamais arrivé, quoi.
Les muscles du visage, voilà, c'est ça.
Peau d'âne au Théâtre Marigny jusqu'au 17 février prochain avec entre autres Marie-Agnès Gillot. Parcells, Be Myself sur France Inter dans la bande originale. Une fois encore, excellente année à tous.
Teach myself.
Parcells, Be Myself sur France Inter. Nous sommes le 1er janvier, nous avons l'extrême chance d'être avec Marie-Agnès Gillot pour Peau d'Âne au Théâtre Marigny. Et nous allons retrouver, maintenant c'est l'heure de retrouver le grand, l'immense Frédéric Sigrist.
Merci. Merci Daniel, je crois que ça fait 3 ans que tu ne m'as jamais lancé aussi chaleureusement.
Bah, j'ai pris un petit peu de lampe.
Mais
voilà,
ça fait plaisir, ça me touche. Beaucoup d'émotions quand même. Alors, en cette nouvelle année, je voulais miser sur votre intelligence autour de la table. Ah. En parlant science et miser sur le rajeunissement de notre public en parlant high-tech. Hein, comme quoi je reste naïf en 2019. Bref, selon une étude, les smartphones, ces vasectomies sans fil qu'on se colle sur le visage en oubliant qu'un téléphone sur 6 est couvert de matière fécale. Ah. C'est pas moi qui le dis, c'est une autre étude. Oui, les chercheurs, ils sont très branchés de téléphones portables. Hein. Faut dire, en même temps, on peut pas non plus tous bosser sur le réchauffement climatique, les maladies rares, la déforestation, le sida, tout ça, dans les téléphones, c'est important aussi. Donc, rapidement, pour résumer, un téléphone portable, c'est donc des minerais hyper rares extraits par les enfants à l'autre bout du monde, c'est recouvert de merde et ça rend stérile. Ça serait vraiment dommage de pas payer 1000 balles pour ça. Des fois, l'humanité me donne de plus en plus l'envie de crever dans une chronique de Guillermo. Eh ben, ces téléphones sont désormais capables, rendez-vous compte, grâce à l'intelligence artificielle et à un algorithme, de dire si leur utilisateur fait une dépression ou non. Mais c'est génial! Avant, avec ton téléphone, en allant sur Instagram ou Facebook, en voyant les photos de vacances des gens, leurs visites de musées à l'étranger, les voir méchamment gauler sur une plage des Maldives, rachetée par Nagui. La plage, hein, pas les Maldives. Quoique, hein, devant un magnifique coucher de soleil, sur l'océan, un mojito à la main, si t'es là, les mojitos, hein, pas les mains. Et quoique, en gros, tu pouvais déjà avoir le sentiment, en comparaison, d'avoir une vie de merde. Et bah désormais, ton téléphone pourra te le confirmer! C'est un algorithme qui analyse le son de ta voix et une caméra qui analyse les traits de ton visage et qui, en fonction, peut en déduire immédiatement si tu as la forme ou non. Alors, j'ai fait le test sur Daniel ce matin. Son téléphone a immédiatement téléchargé une application sport. Le téléphone, il l'a vu tout de suite, il a dit oh, des abdos, des fessiers, des squats et t'éviteras de crever. Sur une échelle de la dépression qui va de 0 Michel Houellebecq à 10 Christine Angot, Daniel, il est à 8. Il se situe entre Jean-Vincent Placé et Damien Seize. Et mine de rien, c'est une chance que les téléphones soient là pour se rendre compte que tu vas pas bien. Parce que franchement, si tu dois compter sur tes collègues... Moi, par exemple, quand j'arrive à la maison de la radio, après avoir passé 2 heures dans un train bondé qui sent la chaussure de sport... Pour faire une chronique de 3 minutes dans une émission où pendant 1h30 je vais entendre Nagui dire que le dernier film de Michael Youn lui a sans exagération aucune fait penser à Citizen Kane ou aux Enfants du Paradis.
Mais non.
Des fois, j'avoue, je suis faible, hein, mais j'ai pas la super patate. Et ben, tu crois que quelqu'un s'en rendrait compte? Mais penses-tu? En général, je tombe sur Jean-Baptiste Bussière, le rédacteur en chef de l'émission. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour, oh mon maître. Oh, c'est toi Fred, pardon, j'ai cru que c'était quelqu'un d'important. Comment ça va dans la France des territoires?
Bah, pas super, en fait, j'ai perdu mon père ce week-end et mon cardiologue m'a dit que les taches sur mes radios de poumons, c'était pas du café.
Ouais, bah, c'est super tout ça. Oh, moi en ce moment, c'est tout le contraire. Nagui me fait la misère. Je voudrais inviter le dernier prix Renaudot. On va faire une émission avec Claudio Capeo.
Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est la bande originale, c'est pas représentatif de l'esprit inter. Mais va parler de tes problèmes à Augustin Trapenard, par exemple. Salut Augustin, t'as un peu de temps? Parce que j'en ai un peu gros, là. Il y en a une qui en a gros aussi, c'est la culture. La culture qui dévore, qui mâche, qui malaxe, qui digère, mais jamais ne vomit. Tu disais, Frédéric? Non, c'est bon, laisse tomber. Allez, Ribéi, grand bien vous fasse.
Ah oui.
Lui, logiquement, il sait écouter.
Ah ouais.
Le problème, c'est qu'il veut que tout le monde écoute. Ali, j'aimerais bien que t'en parles pas, mais en fait, on m'a diagnostiqué un chlamydia. Selon une étude, 29% des Français ont déclaré avoir contracté une maladie sexuellement transmissible durant les 6 derniers mois. Véritable tendance ou phénomène singulier, qu'est-ce qui pousse les Français à adopter des conduites à risque face à ce que l'on appelait auparavant la chaude pisse? Vos réactions au 01 45 24 7000 avec tout de suite un premier témoignage de Frédéric Sigrist. Non, ça va aller Alice, ça va aller. Et Laure Adler. Vous imaginez confier vos problèmes à Laure Adler? Bonjour Madame Adler, vous avez 5 minutes parce que j'ai quelques soucis en ce moment. Alors que 60% des espèces animales ont disparu, que les forêts de Californie brûlent dans l'indifférence générale, que l'Amazonie, le poumon de la planète, est menacée par la déforestation, que les démocraties occidentales se renient elles-mêmes, étouffées par la montée du populisme et du repli sur soi, alors que la précarité progresse partout, tout le temps. Il est des gens qui ont encore l'orgueil de venir me saouler avec leurs problèmes. Donc, finalement, je me dis que les téléphones portables, que ça soit la dernière chose à prendre de vos nouvelles, finalement, c'est pas si mal. Et en voyant à quel point un téléphone, c'est un ami sincère sur qui on peut compter, eh ben, je comprends pourquoi vous êtes si nombreux autour de cette table à le regarder, même pendant mes chroniques.
Merci, bravo.
Viens me voir la prochaine fois, Fred. Je t'écouterai. Et va prendre une petite dose d'amour en allant voir Podane au théâtre Marigny. Au moins jusqu'au 17 février, voire plus. Et tu pourrais chanter et penser aux rêves secrets du prince et de la princesse.
Je ne savais pas que tu m'aimais. En êtes-vous certain désormais? Il aura suffi d'un anneau d'or.
Il aura fallu qu'on nous jette un sort.
Mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur?
On doit s'amuser les week-ends chez eux.
Marie-Agnès, après Podane, alors les projets, quels sont-ils?
Alors, je suis toujours en train d'écrire mon livre en poésie et philosophie.
Ouais, racontez-nous un peu quel est le... Le sujet.
Bah alors ça peut toucher tout sujet justement.
Ouais.
Ça peut, c'est vraiment de la poésie. Ça va, je prends un thème et j'écris dessus.
D'accord,
donc
d'accord. Vous écrivez depuis longtemps?
Ah oui, depuis un an et demi sur ce projet-là. Ouais. Mais sinon j'écris depuis toute petite. Ouais.
D'accord. C'est une pratique quotidienne comme le grand écart, quoi.
Voilà, c'était mon échappatoire, en fait.
Oui. Et alors, quand est-ce qu'on vous retrouve sur scène après Podane, là aussi? On a parlé de ce besoin de scène.
Alors, on a des projets avec Brigitte Lefebvre, qui m'a proposé un...
Brigitte Lefebvre, qui a été l'ancienne patronne de l'Opéra de Paris, qui
exactement.
Est une femme exceptionnelle.
Ouais. M'a proposé un projet avec Andrés Marín et Christian Rizzo.
Ouais, Christian Rizzo, donc, qui est un plasticien, metteur en scène.
Ouais, génial. Ouais,
superbe.
Donc, on fera une première à Cannes, après on fera à Chaillot, je pense.
D'accord.
Alors, j'espère que je vais pas me faire engueuler parce que j'avais pas le droit de le dire, mais enfin, c'est trop tard.
Voilà.
Voilà.
Bonne année. Oui, on vous retrouvera en tout cas sur scène à cette occasion-là. Des chorégraphies aussi.
Oui, et une quelques soirées à la scène musicale.
Ouais,
je
vais m'arrêter
là.
Ouais, génial. Donc ça, c'est pour les mois qui viennent.
C'est pour la saison 19-20.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
Donc, nous, on parle en saison, donc je suis un peu perdue là. On est le 1er janvier.
Ouais, c'est ça.
Donc
c'est ça.
J'ai encore 6 mois à faire. Je commence ma saison dans.
D'accord. Et quand on parle de transmission, est-ce que ça vous donne envie aussi d'enseigner, d'être
en contact? J'ai toujours aimé transmettre. C'est vraiment ma passion première, en fait.
D'accord. Donc on pourrait.
Avant même la chorégraphie, je dirais. Hein. J'ai commencé à enseigner quand j'avais 18 ans. J'ai passé mon DE, je l'ai pas eu parce que normalement les étoiles on l'a direct.
D'accord.
Moi je l'ai vraiment passé. j'ai pas eu mon diplôme en une enveloppe quand je suis partie à la retraite.
Ouais.
Donc et j'aime vraiment ça en fait. J'aime apprendre aux gens à sentir, à s'éveiller, à s'animer, à comprendre une sensation et à être fier d'eux parce que le corps c'est la plus belle matière qui existe.
Mm-hmm.
Et c'est la plus belle à être façonnée, à être sculptée en fait.
Et quel public vous intéresse plutôt, les petits, les
tous,
c'est vrai, tous. Donc vous allez enseigner où précisément, vous savez?
Ben justement, peut-être à Marigny.
Ouais, génial.
Mais sinon, j'enseigne dans des grands stages internationaux,
ouais.
Comme Lyon, Biarritz. Mais ça, c'est souvent l'été en fait. Mais c'est vraiment une de mes passions. J'adore faire comprendre l'air aux gens, la matière, les sensations.
Et quel genre d'enseignante vous êtes? Parce que si vous deviez, par exemple, expliquer à Daniel comment faire un grand écart...
Non, mais ça, je maîtrise. Est-ce qu'on
le grand écart, c'est une formule qu'il faut travailler chez soi.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'on ne va pas beaucoup s'en servir en danse.
Oui, oui.
Ouais.
Mais elle va revenir quelquefois, cette position, mais pas toujours.
Non, mais vous devez être très exigeante. Vous devez être très, très, très attentionnée au positionnement, parce que vous venez de l'école...
Je suis très exigeante, c'est sûr, mais je suis bienveillante surtout, en fait. Je pense qu'on n'a plus besoin d'humiliation et d'abattage pour faire des purs sang.
Ouais, c'est ce qui vous a manqué enfant, parce que c'est vrai que quand on parle de l'Opéra de Paris jusqu'à récemment, on parle des méthodes, on parle des propos qui sont tenus aux danseurs et aux danseuses. On pense aux petits, mais je pense que les ravages n'ont pas d'effet que sur les petits, sur les adultes aussi.
Ouais.
Une façon d'humilier constamment. Est-ce que ça, vous en avez souffert vous?
Oui, j'en ai souffert, mais je m'en suis remise,
ouais.
Et je ne le referai pas,
ouais,
aux autres.
Ouais,
ça, c'est hors de question. C'est hors de question pour moi.
Vous dites que c'était de l'humiliation depuis l'entrée à l'opéra jusqu'à la sortie.
Jusqu'au moment dernier spectacle.
Et vous pensez qu'il y a une malveillance de la part de la direction pour que ce soit comme ça ritualisé des petits jusqu'à la fin?
Je pense pas que ce soit la direction.
Non, du tout. Non.
C'est un état d'esprit propre à la danse.
Oui. C'est pousse-toi de là que je lui mette, ouais. Quoi, en gros. C'est...
Alors, revenons à quelque chose de plus joyeux, de plus léger. Revenons à Peau d'Âne et je vous invite tous à la maison, ici, dans ce studio, à chanter sur cette recette des cakes d'amour.
Voilà.
Préparez
votre pâte dans une jatte, dans une jatte plate.
Frédéric. Fred.
Le discours, allumez votre four.
Oh, c'est pas grave. Daniel, grand écart, hop.
Grand écart facial, tranquille, je fais ce que je veux avec mon corps.
Et avec mes cheveux, voilà. Quand il y en a.
Qui n'a plus.
J'en ai trop fait avec eux. Ils m'ont abandonné, comme mon corps de temps en temps. Jusqu'au 17 février, Théâtre Marigny, Peau d'Âne, avec entre autres Marie-Agnès Gillot.
Et vous allez chanter, vous allez aimer, vibrer, vous allez avoir envie de danser, de prendre des cours avec Marie-Agnès Gillot. Mais Marie-Agnès, on va devoir vous présenter nos excuses quand même pour cette émission.
Bien sûr, je suis désolé déjà pour Nicolas Demaran, Léa Salamé, Laure Adler, bref, tous les alcoolos polytoxicos de France Inter, qui à l'inverse de Marie-Agnès Gillot, ont fait leur carrière grâce à l'alcool. Et oui, c'est une autre école, la danse, c'est le reste. Respect de soi, c'est l'élégance, enfin bref, rien à voir. Désolé pour le prince, dont la sensibilité, l'humanité, la douceur, la beauté ont été souillés par les trois castratrices ici autour de la table. Hein. Hey, on est en 2019, hein, les filles, c'est officiel.
On respire. Alors,
Fred, si tu veux te mettre en collant,
ben oui.
Vas-y, tu es libre.
Surtout la gaine.
Domine ton corps. Désolé enfin pour les ch'tis qui nous écoutent et qui ne se sont pas reconnus dans les descriptions consanguines de leurs mœurs. Oh les gars, attendez, depuis que Marie-Agnès est tombée dans la gnôle, faut pas lui en vouloir, elle ne respecte plus rien. Plus rien du tout.
Merci d'avoir été avec nous sur France Inter et d'avoir commencé cette année avec la bande originale et Marie-Agnès Gillot. Merci à tous autour de la table.
Merci à vous tous.
Et demain,
oui, demain Philippe Geluck. Philippe Geluck et tout de suite, c'est les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Bonne journée.
Très belle année à vous, tous nos voeux d'amour et de bonheur.
Bonne année.